France Musique.
Judith Chen, Les Grands Entretiens, France Musique.
Je m'appelle Patricia Petitbon, je suis née à Montargis et je suis chanteuse.
Patricia Petitbon, vous étiez l'élève de Rachel Yacquard au Conservatoire de Paris, un lieu qui, semble-t-il, vous a laissé de bons souvenirs.
J'ai rencontré des grands musiciens comme la Goya et puis toutes les personnes avec qui j'ai travaillé plus tard, que ce soit Christophe Rousset, que ce soit...
William Christie aussi.
Voilà, Emmanuel Haim qui était aussi assistante de William Christie. Et William Christie, évidemment, qui était une sorte de... d'entité qui faisait peur. Ah, oh, William Christie est là, William Christie. C'était drôle parce qu'il avait vraiment cette aura qui était là. Donc, je vais dire à Rachel, moi j'aimerais bien aller voir William Christie. Il me dit, ah oui, oui, mon petit, mais alors, il faut vraiment. Non, vas-y l'année prochaine. Je dis, d'accord. Et donc, pendant un an, j'ai travaillé avec Christophe Rousset dans les classes de clavecin. Moi, je ne connaissais rien au baroque, hein, inutile de vous dire. Voilà, c'est comme ça qu'un jour, j'ai tapé à la porte de William Christie, je vais préparer plusieurs choses.
Comme... Vous aviez préparé quoi ?
Oh, j'avais préparé toutes sortes de choses, du Purcell, du Handel, du Mozart, du... et donc Bill, on l'appelle Bill, était là et écoutait, il m'a dit « Et qu'est-ce que tu vas nous chanter maintenant ? Et tu vas me chanter quoi encore ?» Et encore, j'ai dit « C'est tout maintenant ». Et à la suite de ça, il m'a proposé plein de choses, plein de projets dans les chœurs. Mais en fait, ça tombait toujours mal. Et un jour, je viens en cours, il me dit « Chérie, tu as refusé tout ce qu'on t'avait proposé ». Et j'ai dit « Non, Bill, je crois que j'ai accepté la tournée en Amérique du Sud ». Et donc, c'était ma première tournée avec lui. Et là, j'ai vu... Voilà, c'est quand même un rêve d'enfant qui s'était réalisé parce que j'avais plusieurs rêves enfant. Je voulais voir les grands arbres, les séquoias d'Amérique. C'est un peu bizarre, hein. Les séquoias, les grands séquoias de Californie. Donc ça, je les ai vus beaucoup plus tard. Et puis, je voulais voir l'Opéra Garnier. Je voulais chanter à l'Opéra Garnier. Et ça, c'est Bill qui me l'a offert. Et voir la Scala aussi. Donc, j'ai vu la Scala de Milan.
Avec Bill aussi ?
Avec Bill, la première fois. Et alors, la Scala, pas refaite, hein, avec tous les petits... Alors, c'était émouvant, vous comprenez, parce que ce sont des théâtres qui transpirent de quelque chose, où Maria Callas a chanté, le Point Callas, on connaissait le Point Callas à la Scala de Milan. Alors, je le cherchais, vous voyez, comme...
Le Point Callas ?
C'est un point qui résonne particulièrement bien. Et quand vous êtes vraiment sur ce point-là, sur une croix, vraiment... La voix habite tout l'espace. Et c'est vraiment... c'est incroyable. C'est comme dans l'espace, quoi. Vous êtes le centre. Alors, c'était drôle parce que quand on répétait nos charpentiers sur scène avec Bill, moi, je sentais l'odeur des pâtes, parce qu'il y avait les cuisines à côté. Donc, vous chantez sur la scène de la Scala et vous sentez les odeurs de pâtes, de spaghetti à la bolognaise et tout. C'est assez comique, l'Italie. Alors, bon, moi, étant aussi moitié italienne, voilà, ce sont des lieux qu'on n'oublie jamais. Le théâtre Colonne. Alors, ça aussi, un grand choc tout en bois.
Absolument. Buenos Aires.
À Buenos Aires, oui.
Oui, rien à voir avec l'Italie.
Rien à voir, mais splendide. Alors, ce qui m'avait frappé là-bas, alors, imaginez quand même, c'était le premier grand voyage que je faisais de toute ma vie. J'étais jamais allée en Amérique du Sud, hein. Donc j'ai vu des choses et des paysages, des façons de vivre. Alors, je me souviens qu'à Buenos Aires, les hommes avaient des cheveux très très longs, mais vraiment. c'était la mode, je ne sais pas, ils avaient des cheveux sublimes jusqu'à la taille, avec des grandes tresses. Ça fait beaucoup, hein, en deux mois.
Et William Christie, dont on sait, comme vous le disiez d'ailleurs, Patricia Petitbon, on se dit « Oh, est-ce qu'il est là ?» etc. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui le suit, qui est une sorte de, oui, de crainte quand même.
Mais parce qu'on sent bien que c'est un homme exigeant. Bon, moi, je ne l'ai pas vraiment vu, senti comme une crainte. Voilà, c'est un homme que j'ai aimé pour ce qu'il était, pour ce qu'il est, comme un mentor quelque part, vous voyez. Il m'a initié. Voilà, il m'a vraiment pris sous son aile. Et j'ai fait des choses avec lui, même d'un point de vue artistique, où il m'a laissé faire pas mal de choses, je veux dire, d'un point de vue interprétation. Donc, voilà, ça a été ma famille vraiment adoptive, où j'ai appris mon métier, entre guillemets, de chanteuse, et puis d'explorer le monde, de voyager, d'hygiène de vie aussi, les avions. Alors quand on est très jeune, on se rend pas compte, on est complètement en effervescence et on commence à apprendre, oui, bah il faut dormir, faut bien manger, faut savoir se reposer, parce que les voyages en avion et tout, c'est très fatigant, vous voyez. J'ai eu les meilleures chaussures que je pouvais espérer pour commencer, vous voyez, un peu comme le magicien d'Oz. Ça, c'est une chance extraordinaire. Puis je pense que si je n'avais pas eu cette rencontre, je serais partie pour tenter une troupe à l'étranger. Voilà, on en parlait d'ailleurs avec Rachel, elle m'a dit « renseigne-toi, peut-être à Zurich, où il y a aussi... c'est vrai que c'est surtout en Allemagne qu'il y a cette façon de construire le chanteur. José Van Damme a fait troupe aussi. Évidemment, c'est pas du tout la même chose, parce que je pense que la troupe, c'est quelque chose d'assez violent, physiquement. Parce que là, on vous demande de chanter un rôle un soir, de remplacer un autre le lendemain. Ça vous construit les cordes vocales, le mental aussi. Mais bon, il en a été autrement. Et je pense que c'est beaucoup mieux comme ça, d'ailleurs. Parce que d'un point de vue tempérament, moi qui suis plutôt quelqu'un de lent et qui aime prendre mon temps, je pense que voilà, j'ai commencé avec la musique baroque, alors que... J'aurais pu commencer par autre chose, mais j'ai trouvé que c'était une façon de... un bon compromis pour ne pas se brûler les ailes trop tôt.
Est-ce que ça voudrait dire que cette musique baroque, il y avait quelque chose de, comme une entrée douce en musique, Patricia Petitbon?
Oui, quelque part, une façon d'entrer en matière aussi qui titille l'imaginaire, une façon de recréer ses mélodies.
Une liberté
une certaine liberté, un certain groove, une sorte de temps différent, quoi. où la voix, où le volume de la voix peut se rétrécir, s'agrandir. Voilà, on n'est pas dans du Strauss où la voix est dans une autre forme d'esthétisme. Donc j'ai senti que pour moi c'était bien. Je sentais que mon corps avait besoin de s'adapter lentement aux choses, vous voyez, et pas d'entrer de front. Alors évidemment, j'ai fait des rôles tout de suite, la poupée, des choses comme ça.
Dans les contes d'Hoffmann.
Les contes d'Hoffmann, Constance, Dialogue des Carmélites, Blanchen. Alors ce qui est compliqué aussi, c'est quand on est trop jeune, c'est de ne pas faire des Mozart trop trop vite. Donc voilà, j'ai commencé comme ça, j'ai fait des rôles, évidemment j'ai fait du Strauss, j'ai fait Sophie de Strauss. J'y suis allée progressivement. Et puis tout un tas de choses qui ne m'ont servi à rien, mais qui m'ont servi pour grandir, évoluer et donner à manger à cette voix qui avait besoin d'espace. Côtoyer la musique baroque, m'approprier les partitions, les réinventer à ma sauce, pour ce que j'étais. Donc il y a un côté très improvisation aussi dans la musique baroque. C'est ça qui est intéressant, c'est de tailler des costumes aux partitions. Donc ce qui fait qu'ensuite, lorsque vous abordez aussi les répertoires classiques, romantique et tout autre, que ce soit Loulou, Debussy, vous avez une autre façon d'aborder la matière de cette partition, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie de vous contenter de faire de la relecture, voyez, vous devez entrer dans un autre monde, comme l'archéologue, prendre vos outils pour creuser, pour vous créer ce costume.
Et faire les notes, ça ne suffit pas.
Non, ça ne suffit pas, et ça ne suffit pas non plus de se référer aux enregistrements, ou de se référer à ce qui est traditionnel. Je pense que le rôle du chanteur est au-delà, il est dans un rôle de, même si la partition existe, de recréer les rôles, pas juste se contenter de comment on nous attend. C'est ce que m'a appris aussi Arnoncourt. Donc voilà, c'est une grande école de la patience avec William Christie, et puis... oui, c'était comme une famille.
Julie Chen, Les Grands Entretiens, France Musique.
Vous dites aussi, Patricia Petitbourg, que Nicolaus Harmancourt, qui a eu une grande importance dans votre vie de musicienne, c'est aussi celui qui a vu ce tragique, qui fait partie de vous.
Oui, je pense qu'il a, compris que le rire, que la mélancolie étaient une seule chose. Il a compris une globalité. Il a entendu ce que j'étais. Et il a compris qu'il pouvait m'offrir... quand même, j'étais heureuse. Junia, qui était un rôle tragique et qui était un rôle de maturité dans Lucio Silla de Mozart. Donc c'est vraiment lui qui a mis le point dessus, qui a changé en quelque sorte la trajectoire. Parce qu'il faut des personnes qui changent les trajectoires dans la vie des chanteurs. C'est très important. C'est un petit peu comme, quelquefois, quand je regarde les acteurs... hollywoodiens, on voit qu'ils sont cantonnés dans des rôles bien précis. Donc, par exemple, s'ils font des rôles de science-fiction, on va les engager que dans des rôles de science-fiction. Si le comique, un certain type de comique, c'est pareil. Il y a ensuite l'amoureuse, celle qui est l'amoureuse mélancolique, elle est toujours là. Il y en a très très peu qui se dégagent de ces cases-là. Et pour la musique, c'est un petit peu la même chose. Il faut faire très attention. Et c'est-à-dire que, voilà, ça, c'est une chance que quelqu'un puisse vous dire, eh bien, tiens, moi, je t'offre un rôle tragique. Ce qui est certain, c'est que le rôle de Junia, j'étais tellement en amour avec ce rôle, on va dire. Je le travaillais même en étant étudiante. Je trouvais ces pages tellement extraordinaires. Il y a un air vocalisant absolument redoutable, mais qu'il a fait avec Edita Gruberova, qui est une autre grande chanteuse qui m'a énormément fait rêver et inspirer aussi. Que quelque part, peut-être que le fait de ne pas vouloir absolument les choses, elles arrivent à vous. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que quand il m'a proposé ce rôle, je lui dis « Mais Nicolaus, vous êtes sûr, vous n'êtes pas trompé avec l'autre soprano ?» Il a dit « Non, non. » Et c'est le même Nicolaus Harmancourt qui a voulu faire Loulou avec moi. Et c'est toujours le même Nicolaus Harmancourt qui voulait faire avec moi les trois rôles des Contes d'Hoffmann. Donc, vous voyez, cette fidélité et cette façon de voir certaines choses différentes des autres aussi, c'est une chance pour un chanteur d'avoir des rencontres aussi pleines, quoi, aussi riches.
Ton ananas là,
c'est coupé ça.
Quand on vous entend, Patricia Petitbon, parler de cette voix complètement dans notre corps, c'est l'instrument qu'on a en soi et c'est un instrument qu'il faut apprivoiser.
Oui, bah, c'est une exploration de soi-même, hein. C'est l'exploration du monde, hein. C'est l'exploration de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Donc j'ai compris plus tard que, en fait, l'idée saugrenue d'être cosmonaute était très très liée au fait d'être chanteuse. C'était un petit peu la même chose, cette exploration du vide qui est plein, du vide et du plein, de l'antimatière, de la matière. C'est l'acceptation de ce qu'on est dans ses fragilités, dans sa force. Et aussi, il y a quelque chose d'extrêmement poétique et de très rationnel dans le fait que on vient, j'ai beaucoup de choses comme ça, mais on vient du Big Bang. Et on l'oublie, on vient du Big Bang, on vient de poussière d'étoiles, on vient des algues, on vient de météorites, on est poussière, on est gaz, on est tout. On est le résultat, on est en une sorte de testeur, d'accumulation de tellement de choses et de tellement de points d'interrogation dans nos attitudes, dans nos réflexes primordiaux, entre guillemets. Donc c'est très intéressant parce que le chant nous ramène pas quelque chose de forcément intellectuel, mais comme je le dis, de primordial et de cette inspiration, expiration. Et entre ces deux mondes, entre l'expiration et l'inspiration, on côtoie aussi la mort de temps en temps. On est comme une énorme grotte de Lascaux avec des endroits interdits, mais le chant permet d'y aller, d'y entrer et d'accéder à ces endroits qu'on généralement on met sous cloche et qu'on ferme comme des boîtes de Pandore. Donc c'est ça qui est étonnant. Le souffle nous permet d'ouvrir des espaces dans le corps, que ça soit dans le dos, que ça soit dans les jambes, dans les pieds. C'est comme si les os se distendaient. Enfin, c'est ça qui est fascinant. Et la voix est une chose qui marche énormément avec le mental, avec un mental, je dirais, qui est capable d'ouvrir les portes. La voix est le miroir de ce que nous sommes, le miroir de nos états d'âme. Si vous êtes dans quelque chose de négatif, par exemple, la voix va se teinter de ce négatif et va se refermer. Elle est vivante, elle est palpable, elle vit dans le corps, elle se transforme. Et c'est ça qui est assez fascinant. Et chaque son qui est envoyé qui va quelque part aussi. C'est une histoire vibratoire, vous voyez. Tout n'est que vibration. Et c'est pour ça, je pense, que je fais du chant. Parce que ça m'ouvre des espaces au-delà des salles de concert, mais que ça me positionne quelque part dans la vie et ça me pose question sur nos origines et pas seulement.
Comme nous disiez Patricia Petitbon, un petit peu plus tôt, le chant, c'est l'expiration, l'inspiration, et entre les deux, parfois, on côtoie même la mort.
Alors, quand je dis on côtoie la mort, je ne peux pas dire qu'on côtoie la mort dans le sens très précis. Enfin, on ne sait pas vraiment ce que c'est que la mort. Parce que, dans le sens où on peut être en apnée, on s'arrête. Ce que je veux dire, c'est que la respiration nous place dans une altitude très particulière, nous les chanteurs. On brasse de l'air, on brasse de l'oxygène tout le temps. C'est-à-dire qu'on ne respire pas comme celui qui marche dans la rue. Ça n'a rien à voir. Celui qui remplit les poumons, qui recrache, c'est comme si c'est très particulier.
C'est un apprentissage, ça, Patricia Petitbon, oui. Ou c'est naturel?
Ah non, c'est un apprentissage, bien sûr. C'est comme un sportif. C'est un autre rythme de fonctionnement du corps où vous brassez de l'air, mais vous brassez le son aussi. Vous le faites naître, vous êtes une grande entreprise, voyez, poétique et quelquefois mystique même. Ça vous dépasse. C'est une autre dimension, c'est un autre langage. Et ça ne passe pas forcément par l'intellect, mais par créer ces espaces qui ouvrent le corps, qui le ferment, qui le bouleversent, qui le bousculent, qui amènent une patte de couleur, de son, de ce que vous voulez. C'est un grand plongeon dans le vide. On se noie dans le son et dans le fait que respirer, ça devient vraiment un instinct aussi de survie et de réflexion, effectivement, sur ce que nous sommes, sur l'être. Voilà, c'est être vivant aussi que d'être chanteur.
Tu peux chanter pour vitesse, tu peux me donner la richesse, ou bien la grandeur de mes désirs et la puissance, les plaisirs.
C'est sur cette romance de l'étoile extraite de l'étoile d'Emmanuel Chabrier par Patricia Petitbon et l'Orchestre National de l'Opéra de Lyon dirigé par Yves Abel que se referme ce troisième épisode des Grands Entretiens avec Patricia Petitbon. Rendez-vous demain à 13h pour la suite et merci à toute l'équipe. Préparation Céline Tran-Nouvelle, prise de son Adrien Gaza et Kamal Salifou, mixage Pascal Bénard, réalisation Perrine Mingui. Podcast et réécoute sur francemusique.fr.
France Musique. Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.